Bien enregistré. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez bien enregistré tout? Est-ce que vous avez bien et parfaitement compris tout? Alors, comme ça, c'est difficile. Alors, maintenant, autre question, parce que ça, c'est difficile. La réponse, non. Donc, précisons la question. Mais alors, qu'est-ce qui vous avez compris? Vous avez compris quelque chose? Eh bien, que vous n'avez jamais compris jusqu'à présent. Personne. Mon Dieu, mais c'est... Je t'ai peut-être entendu 3-4 fois déjà, 1000 fois peut-être. Mais là, si t'es là, c'est passé de l'autre côté, sans pénétrer. Tandis que là, c'est là, c'est rentré. Je n'avais pas vu ça. Voilà. Chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Vous avez bien compris la question. Quelque chose, ça. Hein? C'est vrai, cinquième demeure. C'est le silence, le mouvement, Tachyon, Marie, Jésus, la présence de Dieu, la lumière, le corps spirituel, le monde nouveau. Pas besoin de s'étendre, juste un mot suffit quelquefois du passage. Dis-moi, vous n'êtes pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé. Faut pas pleurer, hein? Dis-moi, je veux pas le dire. Alors, si vous ne voulez pas le dire, vous ne dites pas. C'est pas, c'est pas du tout, c'est juste. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais? Nous répétons toujours la même chose. Alors, s'il s'agit des paroles, c'est pas ça. Est-ce que j'ai déjà entendu ces paroles? C'est pas ça la question. Et qu'est-ce que... Mais, ah ben oui, je viens de comprendre. C'est quelque chose de nouveau. J'avais jamais compris avant ça. J'ai éprouvé spirituellement quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il veut parler? Vas-y.
Ben moi, tout à l'heure, j'ai voulu faire oraison et au moment où j'ai commencé, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre comme quand je suis devant le Saint-Sacrement. Et je ne vais pas dire dans quelle maison j'étais, mais en tout cas, dans la maison j'étais. Mais j'ai eu l'inacatiste à la Mère de Dieu qui est venue. C'est comme si j'étais invitée dans un concert, dans le cœur des anges. Et j'ai entendu l'inacatiste différemment grâce aux enseignements de ce matin. Parce que j'écoute ça depuis très longtemps. Et c'est rempli d'informations, c'est rempli de connaissances. Et c'est rempli de mystères pour moi. Et donc là, j'ai compris des versets, enfin, des couplets de l'inacatiste. Et
tu peux donner un exemple d'un des...
Tu récapitules la sagesse de sa parole.
Tu récapitules la sagesse de sa parole.
Qui pense, c'est lui qui pense tout.
C'est très long, hein, ça dure 3-4
heures. Non, mais tu récapitules. Tu récapitules la sagesse de sa parole.
C'est ça qui m'est revenu le plus souvent.
Mais ça, je reconnais que c'est un résumé ce qu'on a dit ce matin. La récapitulation mariale, immaculée de la sagesse du Verbe. Le saisir dans sa substance, c'est beau ça. On appelle ça une grâce.
J'ai ressenti une grande joie comme si j'étais dans un concert.
Une grâce d'illumination intellectuelle. Une grâce d'illumination surnaturelle intellectuelle. On appelle ça. Saint-Jean de la Croix appelle ça comme ça. Une grâce illuminative, c'est le passage de la troisième à la quatrième demeure, ça. Qui peut nous...
Ce que vous avez dit sur Marie Corédentrice, parce que c'est une question qui s'était posée là, entre moi et quelqu'un d'autre tout récemment. Et justement, vous en avez parlé. Marie-Corédentrice.
Je comprends. C'était tout nouveau pour toi.
Non. On a parlé récemment avec quelqu'un, donc ça avait donné un éclairage nouveau à ce sujet, disons. Parce que vous en avez parlé, ça.
D'accord, mais quoi dans le... J'ai dit quoi de spécialement nouveau sur l'histoire, sur le fait que Marie...
Bon, la fondation de l'Église, disons, Cartons Percy. Ouais. Et puis, bon, après, le Christ était mort. Donc il y avait une très grande distance entre son âme et son corps.
Elle a originé la présence du sacrifice. Elle a originé la présence réelle du sacrifice de Jésus dans toutes les eucharisties du monde. Ça venait pas de Jésus, ça venait de la foi de Marie après sa mort. C'est elle a engendré la présence réelle. Pas l'Eucharistie, c'est pas elle qui a engendré l'Eucharistie, elle a engendré la présence réelle du sacrifice.
Très important. C'est bien parce que
vous m'avez
éclairé,
c'est
tout à l'heure.
Ça
t'avait... C'était une question que l'on
avait. Ah oui, alléluia.
J'ai récemment avec quelqu'un, alléluia, justement, à propos de la tour de Marie-Corédentrice.
C'est tout, ok. Ah non, vous, non, vous, vous êtes habitué à tout ça, c'est...
Si vous voulez.
Non, je veux rien, moi. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé.
Non, c'est parce que je suis debout, parce que...
Oui, je comprends.
Jésus... Quand il me regarde, il doit dire, pétard, qu'est-ce qu'il est dur celui-là, hein. Si dur à comprendre. Enfin, après tout ce que vous avez dit, petit à petit, je comprends un peu que qu'il faut, je ne sais pas trop comment dire, qu'il faut se donner à Jésus, mais c'est pas ça qu'il veut, il veut plus que ça, il faut... Il faut faire un petit peu comme la goutte d'eau que vous mettez dans le vin, et il faut disparaître. Et elle ne disparaît pas, la goutte d'eau, parce qu'en réalité elle reste dans l'eau, dans le vin. Et en même temps il faut quand même disparaître, puisque, enfin, non, il faut être transformé, il faut se laisser transformer. Et devenir ce vin, et puis ensuite devenir le sang. C'est extraordinaire. Mais en même temps, je sens qu'il y a mon petit bibliolo qui rouspète, bon, moi qui ne rouspète pas, mais il traîne un peu beaucoup. Et pourtant, très souvent, et il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu des preuves de l'action de Dieu, parce que si c'est moi qui veux agir, je me casse la figure. Et Dieu, Jésus, il résout tout un tas de problèmes. Alors il faut que je me laisse faire.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par ce matin, j'avais jamais entendu à l'intérieur de moi,
j'avais jamais saisi que...
C'est de nouveau, vraiment totalement nouveau. C'est je ne l'avais jamais aperçu avant.
C'est un pas de plus que je me rends compte que le vrai bonheur, et c'est mal de dire que je me rends compte, parce qu'il faut que Dieu me prenne, il faut que je me laisse prendre, mais c'est plus que ça, il faut que je vive avec lui. Et c'est pas comment d'ailleurs. Ça fait longtemps bon, que j'entends cela, mais je sens que je fais un pas de plus, et vous me faites faire un pas de plus. Alors comment, de quelle dimension il est, ce bord, je n'en sais rien. Voilà.
Alléluia.
C'est
bien. C'est le mouvement qui révèle un péché auquel je n'ai pas renoncé. Moi aussi. Ah, ça marche, ça. Prends autorité sur soi.
Ça, c'était nouveau pour vous, ça. Il y a un mouvement, par exemple, je grogne, je suis en colère. Ça, c'est pas un péché. Ce n'est qu'un mouvement. C'est comme faire un rototo, c'est pareil, c'est la même gravité. Sur le plan spirituel, c'est de la même ordre. Je m'énerve contre quelqu'un, c'est pas un péché. C'est un mouvement.
Et on peut se contrôler.
Et c'est pas plus grave que d'avoir un tic. Un tic. Est-ce qu'avoir un tic, c'est un péché? Non. Avoir une grogne, avoir une exaspération, même un mot compulsif, comme ça, c'est pas un péché. D'accord? mais ça cache un péché qu'on n'a jamais, sur lequel on n'a jamais renoncé à ce péché. C'est un choix contre Dieu directement qui cache ce mouvement compulsif de colère. Il y a un péché mortel, mais je n'ai toujours pas renoncé à ce péché mortel. Je l'entretiens encore. Spirituellement. C'est un péché mortel, forcément, oui. Eh oui, forcément. Ça, c'est nouveau, ça. Yes, mais c'est la première fois que vous comprenez ça.
Non, c'est
le vivre. Eh bien, tant mieux, alléluia. Alléluia, oui, bon, c'est bien. C'est bien.
C'est pareil. C'est ce, je ne savais pas cette dimension là, du péché, des mouvements. Ça, je le découvre là. Ça. Et c'est très intéressant à savoir la thérapie. C'est qu'on l'offre, on le plonge dans le sang de Jésus et on ne sait pas lequel le péché. C'est dans l'inconscient, c'est dans les blessures. Je sais
non, ce n'est pas inconscient, c'est conscient. C'est spirituel, donc c'est dans la lumière. Mais. Je sais que je n'ai pas encore demandé pardon, je n'ai pas renoncé, je n'ai pas donné ce péché. Un jour, le Seigneur me le montrera.
Ouais.
Mais il faut d'abord que le mouvement disparaisse. Ouais. Et pour que le mouvement disparaisse, il faut que je fasse les quatre pardons. Sur le mouvement, sur le péché, sur ce qui a amené ce choix que j'ai fait.
Ouais.
Et aussi sur toute chair qui se trouve dans le même corps mystique du péché que le mien. Voilà. Donc je dois faire les quatre pardons. Si je fais les quatre pardons, tac, ce mouvement va disparaître. Peut-être pas les trois autres. Mais du coup, je vais avoir accès au péché en question. En tout cas, ce sera beaucoup plus facile pour moi, la prochaine confession, de ne pas accuser le mouvement qui n'est pas le péché, mais le péché qui est le péché. Donc on se rapproche du coup du péché. Hein? Voilà, bon. Patrick. Dis-nous quelque chose. Oh non, rien de nouveau pour toi, toi tu.
Non, la même chose. J'ai été interpellé par le mouvement. Parce que. Oui, c'est.
Tu avais toujours perçu l'église protestante comme ça, toi, oui. Ce mouvement, bon, c'est une loi, si tu veux, c'est la nature, de l'esprit et de l'âme.
C'est bien
notre âme lutte contre notre esprit. Il faut bien se rendre compte. Notre âme, elle lutte contre notre esprit. Donc le mouvement, il vient de l'âme. Le péché, il vient de notre esprit. Il y a une lutte entre les deux, mais ça fait le mouvement. Mais ça, c'est les lois de la nature et de la grâce. Ce que nous voudrions, nous, c'est découvrir des choses nouvelles sur Dieu lui-même. Pas sur les mécaniques du psychisme, psycho-spirituel. Ce que nous voudrions découvrir, c'est en allant au-delà du monde pneumato-surnaturel, c'est-à-dire spirituel et surnaturel, pénétrer dans des nouvelles découvertes du monde intérieur, divin de Dieu. C'est ça qu'on cherche quand on veut passer quand on accepte de passer la quatrième à la cinquième demeure. Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui.
Moi, je pense à la petite Thérèse. Elle m'aide un peu comme ça. Je ne suis pas capable de monter un échelon, mais j'ai le désir de le monter. J'ai le désir de monter là. Je n'ai pas la capacité de monter à première marche. Mais j'ai foi en Jésus qui vient me porter. Voilà. Bon.
Il me mène en haut.
Ça, c'est une consolation que j'ai. Il y a un cheminement. Je sais que ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai connu l'oraison sans le savoir. Sans le savoir. Et après, je suis tombé dans les épines de la vie. les cailloux du chemin, et ça s'est évaporé, mais quand même il y a la grâce de, qui fait que ça, je suis ramené, je ne sais pas pourquoi je suis là, ce n'est pas mon choix, on m'a pris pour m'amener ici, et alors je suppose que c'est comme Jésus qui fait passer de l'autre rive. On est dans une barque, et puis d'un coup, on est dans...
Tu changes de barque. Tu es sur un radeau, et tu te retrouves sur un aérobus. Bon, est-ce que... Bon, vous avez quelque chose peut-être de... Oh, non, il n'y a rien de nouveau pour vous.
Non, j'ai trop
peur. Oui, mais justement, c'est ça qu'on voudrait savoir, ce... Comment tu formules ce que tu as compris le mieux ?
Aujourd'hui ou...
Ah, bon, aujourd'hui, oui.
En faisant plus je fais oraison, plus je m'aperçois que j'aime pas Dieu. Que je sais pas, que c'est en faisant oraison que c'est... Il faut passer par Marie. Il y a plein de choses dans l'oraison, ça dépend des jours, c'est jamais pareil. Alors, c'est difficile de tout décrire.
Oui, je me rends compte de plus en plus dans l'oraison qu'à certains moments, ce n'est pas Dieu que j'aime, mais oui. Ce que je perçois. Hein, ce n'est pas Dieu que j'aime. Je le vois de plus en plus. Ah, Jean-François, c'est beau ça.
Ah, ouais. Voilà. Et je m'aperçois qu'il faut passer par Marie. Je ne savais pas que son renaître en elle. C'est en elle qu'on peut aimer Dieu, sinon on ne peut pas.
Oui, parce qu'elle aime Dieu.
Elle aime Dieu. La Sainte Vierge.
Quand elle regarde Jésus, c'est Dieu qu'elle aime.
Oui, voilà.
Sinon, elle n'aurait pas pu rester.
Moi,
je
n'ai pas vu Marie du tout aujourd'hui dans mon maison. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il me manque un mot.
Ah non, 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 on ne vous demande pas ce qui vous manque. On vous demande ce qui vous manque pas.
Ce qui me manque. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé que c'était très beau, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il faut devenir tout petit pour pouvoir être dans les mains de Dieu avant tout. Et pour pouvoir... C'est la première fois que je ne suis pas gênée par les bruits autour. Et... C'est pour ça que d'habitude, j'ai du mal aussi à rentrer dans l'oraison, parce que je suis gênée par l'extérieur, par mes gestes et les choses qui dérangent et qui remontent. Et en fait, elles ne sont pas un problème si on est prêt à les laisser passer comme sans en souffrir. Les mettre dans les mains de Dieu, que ce soit le bruit autour, que ce soit parce que ça fait partie de notre monde et de nous, que Dieu nous regarde. Et donc, il veut aussi voir toutes ces impuretés, ces imparfaits. Des choses qui soient imparfaites dans notre monde. Ça, je l'ai vu, oui. Et puis, il y a une chose, Père, que je pourrais dire, qui m'est arrivée dans l'oraison. Parce que quand je fais oraison, je vois rien, je vois pas des trucs, je suis dans un silence. Mais il y a une chose qui est vraiment que... C'est-à-dire, je voyais sans voir. Je voyais comme j'étais petite. Et d'un coup, j'étais tranquille, je faisais oraison dans la paix, bien. Et d'un coup, je me suis écriée en moi, mais qu'est-ce que t'es petite ? Qu'est-ce que je suis petite ? Oh, qu'est-ce que je suis petite ? Je me demandais ce qui m'arrivait. Voilà, et comme si je voyais que j'étais petite, mais je voyais rien. Voilà, c'est la chose la plus forte qui m'est arrivée dans l'oraison. Enfin, une des choses. Voilà. Mais on va être vraiment tout petit, hein, parce que...
Bon, moi, ça, c'est la confirmation, enfin, dans la question de Tachyon.
Tachyon.
Hein ?
À l'histoire des Tachyons, oui.
Que vraiment Dieu est premier, et que ça confirme, c'est-à-dire que c'est une confirmation réelle, quoi. C'est démontré presque. Et qu'en même temps, l'amour n'est pas aimé, je n'aime pas Dieu. Je sens, moi, parce qu'il y a une lutte entre ce désir d'aller vers lui et en même temps freiner les cafés, pour ne pas y aller.
Moi, j'ai ressenti ça aussi un petit peu, que dit monsieur.
Jean-Philippe. Toi, c'est Patrick, ça c'est Jean-Philippe.
Que les bruits ne me gênaient pas, j'étais bien, enfin, j'ai réussi à m'isoler, mais c'était une technique, quoi. Mais j'arrivais pas à sentir la présence de Dieu. J'avais du mal, comme si je ne pouvais pas aimer Dieu, comme si oui, c'était une manière de. J'arrivais pas à entrer dans sa présence. Voilà. Donc, c'est peut-être normal. Hein, je commence.
Oui, c'est parce qu'on se. Parce qu'on s'en choisit de ne vivre qu'avec Dieu seul pendant une demi-heure. C'est ouais, ça qui dit.
Je suis pas arrivé.
Ah, mais c'est pas toi qui y arrives.
Ouais.
Toi, tu donnes ton temps, tu donnes ta demi-heure.
Ouais,
tu n'arriveras à rien, mais tu as des mouvements. C'est ça. Tu as des mouvements. Ben, c'est le mouvement. Toi, tu n'y arrives pas, puisque c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui te transforme. Donc, tant que tu as des mouvements, Dieu fait monter sa présence à l'intérieur de toi, de toute façon. Mais ce qui sort dans ta tête, dans ton ressenti, c'est tes mouvements, ce qui vient de toi. Et justement, c'est pas ça, et c'est pas l'horizon, tes mouvements. Mais tant que tu profites d'être en face de tes mouvements, vite pour les donner dans le sang précieux, les faire disparaître. Et faire disparaître les quatre pardons. Et à force de faire disparaître tes mouvements, avec les quatre pardons qui sont par derrière, ben, la présence divine elle-même de Dieu pourra t'assumer à un moment donné, dans la paix, dans un silence surnaturel. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais de temps en temps. Puis après, de manière très habituelle. Quatre pardons. Je demande pardon pour le mouvement. Je demande pardon pour le péché qui est à l'origine de ce mouvement. Que je n'arrive pas à voir quel est ce péché. Mais je sais qu'il existe. J'ai un pardon que je n'ai pas. Donc je dis, je ne sais pas, je prends. Je demande pardon, Seigneur, de toute façon, ce péché. Et je renonce à ce péché. Tel qu'il est, je ne sais pas lequel c'est. Je sais que je n'ai jamais renoncé. Je suis dans un état où je ne veux pas y renoncer. Bien, je le prends quand même, j'y renonce. Je le donne, je te demande pardon, je l'engloutis dans ton sang précieux, mais je prends ensuite quatrième, troisième pardon. Tout ce qui m'a entraîné vers ce péché, les racines, les contre-causes. Ouais, j'étais entraîné, j'ai trouvé que c'était normal, tout le monde fait pareil, t'es un imbécile si tu fais pas ça, je sais pas. Et le quatrième, c'est toute chair qui est dans le même corps mystique du mal que le mien. Et c'est le plus important, c'est ce quatrième, bien sûr. Parce que celui qui, si on ne le fait pas, celui qui nous ramène toujours pas au corps mystique du péché. Parce que demander pardon sans charité, c'est comme si on n'avait pas demandé pardon. Donc on n'est jamais pardonné tout seul et libéré tout seul, jamais dans les lois de Dieu. La sainteté de tout seul, c'est luciférien. La sainteté dans la communauté, dans la communauté de chair et de sang, on peut dire. Hein. Parce que la communauté de péché, c'est une communauté de chair et de sang. C'est le même sang du mal qui circule en nous tous. Alors c'est cette communauté-là que prend autorité sur elle. Et je demande pardon. Et je suis la bouche qui demande pardon pour ce corps mystique-là. Oui, quatre, pardon. À ce moment-là, j'aurais plus le tic en question. Mais c'est pas forcément le tic, il hein. N'y a pas que des tics. Comme...
Des phobies.
Des phobies, des peurs.
Oui. Alors, j'ai. Là, ce matin, en méditant,
j'ai pensé que j'avais de la timidité, que j'avais un non-être. Je ne voulais pas exister. Et alors je me disais, pourquoi je ne veux pas exister? Et alors j'ai pensé à mes géniteurs, à mon père et ma mère, qui sont morts maintenant depuis pas longtemps. Et j'ai pensé qu'ils m'avaient conçu pendant la guerre, que donc il devait y avoir de l'angoisse, et qu'ils me l'avaient transmise, cette angoisse. Et voilà, ça fait une petite chaîne, et voilà, cette misère, je le découvre aujourd'hui.
Alors ça, c'est une cause.
Une cause.
C'est pas une conséquence, c'est une cause. Et entre les deux, il y a un péché.
Il y a un péché.
Du coup, je dis au Seigneur, tu veux pas que j'existe. Donc, je veux pas que tu existes non plus.
Voilà.
Mais de quelle manière ça s'est exprimé la première fois? Un jour, tu vas découvrir ça dans la sixième demeure. Mais tu as déjà demandé pardon. Donc, il y a une espèce d'athéisme pratique en nous. C'est cet athéisme, je veux pas que tu existes. Puisque. Un choix spirituel.
Pour moi, c'est peut-être un peu pareil que pour lui, je pense, parce que j'étais aussi conçu pendant la guerre.
Ah, tout s'explique. C'est genre qui sont conçus pendant la guerre.
C'est pensé à la même chose que lui, à ce sujet. Donc, en tout cas, moi, c'est vrai. Et en plus à Paris, où il y avait beaucoup de
propagande. À Paris pendant la guerre. Hein.
Enfin, des alertes sans arrêt.
C'est bien. Et la cinquième demeure, ça vous paraît très très clair ce que c'est la cinquième demeure maintenant? Vous avez parfaitement compris ce que c'est que la cinquième demeure. Peut-être pas, hein? Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous venez de découvrir ce matin? Vraiment, jamais, j'avais jamais vu ça. Et puis à partir que je le connais depuis 30 ans. Non, si, 30 ans que j'étais venu avec Montmorin, bien sûr.
Ce que j'ai découvert, approfondi, et découvert d'un temps, c'est... Bon, dans l'oraison, quand on commence à... Je demande à mon père de me détacher du tout, d'aller vers lui. Je le loue, je lui dis que je l'adore, et puis je me laisse aller. Alors c'était beau aujourd'hui parce que... Enfin, moi j'ai pas longtemps que je fais l'oraison, hein. Il y a deux ou trois fois que vous avez entendu, je vous ai entendu parler de l'oraison et de Manova, et puis la dernière fois d'Arbandal. Mais bon, je me suis laissée aller, j'ai attendu qu'il se passe quelque chose, alors j'ai vu des choses magnifiques, c'est-à-dire que j'étais dans un ciel bleu, tout d'un coup des lumières de toutes les blanches. Et puis comme des petits feux d'artifice. Et ensuite, bon, ça a duré, je ne sais pas, je ne peux pas le dire le temps, je n'étais pas là. Et puis quand j'ai commencé à entendre du bruit, à ce moment-là, bon, il y avait des ombres qui sont venues. Puis après, c'est devenu un peu rouge, un peu jaune. Et puis après ça, il y avait du bruit et on a arrêté là. Mais ce que j'ai approfondi et découvert, donc, c'est cette relation, vous avez parlé de qu'on ne voulait plus être dans le monde, qu'on s'isolait pour être avec le Père. Et cette soif de chaque fois découvrir quelque chose de nouveau pour aller plus loin, chaque fois.
D'aller au-delà, au-delà.
Ouais, voilà, au-delà. Et puis, bon, ce que je ne savais pas, c'est que les mouvements, ça pouvait venir des péchés. Voilà, c'est ça. Ça, c'était... Alors, vous pouvez m'expliquer ces couleurs. Ce que c'est, ça. Les couleurs et tout ça. C'est...
Les couleurs.
C'est pas grave.
cœur. Quand vous voyez comme ça, dans cette espèce de présence silencieuse vivante de Dieu, vous commencez à voir des couleurs. Ces couleurs relèvent du monde sensible, puisque c'est des couleurs. Ce sont des sens externes, comme dit Aristote. Donc ce sont des mouvements. Et ces mouvements, puisque ce sont des couleurs, c'est pas des couleurs mauvaises, c'est des couleurs de joie, c'est des couleurs des émanations, des ondes qui émanent de la présence de Marie, de Jésus, tout ça. Mais ce n'est pas encore la substance, c'est pas encore l'hypostase, c'est pas encore l'intériorité spirituelle de Dieu. Mais ces mouvements, donc, doivent être aussi, à un moment donné, croyez, quand vous serez dans quatrième demeure, c'est à la frontière de la cinquième, vous considérerez très facilement que c'est la splendeur glorieuse de ces couleurs sont des mouvements qui sont des mouvements, donc elles correspondent à une certaine manière de ne pas rentrer à l'intérieur de Dieu. Puisque ce sont des mouvements. Voilà. Ça empêche de rentrer dans la sixième demeure. Dans la sixième demeure, il n'y a aucun mouvement dans les sensibles externes. Mais il y a la substance et l'essence même de Dieu. Parce que c'est Dieu que j'aime. C'est pas la splendeur qui émane des ondes, qui elle-même émane des gloires qui sont secondes par rapport à Dieu de la résurrection, dans la grâce qui est encore troisième, dans ma pauvre vie de prière à moi. Donc c'est Dieu, mais dans ses rebondissements, un, deuxième, troisième, quatrième, et ici. Alors, attends, moi, il faut que j'aille beaucoup plus haut, c'est Dieu que je vois.
Voilà.
Oui. Mais c'est déjà bien de voir ça, parce que pendant ce temps, je vois peut-être, à un moment donné, il y a une purification de tous les mouvements. Donc ça, c'est typique de la troisième demeure. Vous voyez ça? Quand on a typique de la troisième demeure, quand vous avez ces trucs, ça met beaucoup d'amour, le cœur se réchauffe, il n'y a que des choses très très belles, très splendides, surnaturelles. Il ne faut pas dire que ce n'est pas surnaturel. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu, c'est évident, mais comme il bute sur la non-union transformante spontanée avec lui, ça rebondit sous ces formes surnaturelles là en nous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme l'expliquera Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux aussi. Voilà, c'est évidemment pas la même chose. Par contre, quand je suis ce tout petit, minuscule, voilà, et je passe à travers comme ça tous les espaces, tous les temps, je peut me précipiter dans le principe avant même que le temps existe. Je suis tellement petit que je suis dans l'action créative, la créateur de Dieu qui va commencer, quoi. C'est là que je suis, j'y repose silencieusement et bientôt il va y avoir la création. Bientôt il va y avoir la création du monde surnaturel dans l'union hypostatique des cieux. Bientôt il va y avoir la création à partir de l'Assomption de Marie du monde nouveau. Bientôt il va y avoir la création.
J'ai une question par rapport à ça, justement. J'ai l'impression que j'ai eu surtout l'impression aujourd'hui qu'il fallait retourner à l'acte créateur de Dieu, parce que c'est là où on est le plus, où on est le plus pur, c'est là où on est dans l'oraison. Et ça fait peur. Ça fait peur.
C'est super de comprendre ça.
Parce que. Et en fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer dans l'oraison.
C'est là, quand la Créateur est là, on est uni avec Dieu. Après le péché, on n'est plus uni à Dieu. Donc, comme on ne veut pas être uni à Dieu, on ne veut pas revenir à cet état d'union avec Dieu. Alors, on découvre, on dit, oh. Il ne faut pas rester là, il ne faut pas revenir à l'origine. Et y rester, on est à l'origine pour pouvoir entrer dans la nouvelle origine surnaturelle du corps spirituel venu d'en haut. Et dans cette nouvelle origine surnaturelle, l'origine surnaturelle, tu peux rappeler, quand le Saint-Esprit, l'inspiration passive substantielle est telle à créer l'amour, qui émane de l'amour de l'épouse, de l'époux à créer, devient amour, voilà, ça, c'est dans l'union hypostatique déchirée Jésus et la transverbération. Mais quand, de là, il prend son troisième nom, c'est-à-dire sa troisième fonction, si je puis dire, couleur, enfin, hypostatique de personne, substantiellement une, il est paraclet. C'est ce passage de l'amour au paraclet. Ce passage-là, c'est le passage de la cinquième à la sixième et septième demeure. C'est plus du tout cet esprit répandu dans ces sept dons et dans l'unité de ces sept dons. Non, non, c'est pour ça, c'est l'amour. Ça. Et à un moment donné, il est le Saint-Esprit. C'est un peu comme la deuxième personne de la très sainte Trinité. Elle est le Verbe, elle est l'époux, elle est d'abord, en fait, il faut dire la vérité, elle est épouse. Cette épouse est la manifestation de l'époux, elle est le Verbe. La deuxième personne a passé, et puis elle devient le Fils. Et moi, si je remonte comme ça vers le Père, je perçois très nettement la deuxième personne de la Trinité comme l'épouse éternelle. Et un créé avant la création du monde de l'être. Sûrement, dans la sixième, septième demeure, je perçois l'hypostase personnelle de Jésus comme étant l'épouse. Là, je comprends pourquoi à ce moment-là. Et je comprends mieux l'Église comme épouse. Parce que l'Église comme épouse, n'est plus l'Église, elle est que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, donc elle est épouse. Je comprends mieux Marie, parce que Marie, quand elle est disparue complètement dans l'au-delà de son unité responsable avec le paraclet, eh ben, elle est complètement confondue avec la sagesse créatrice et d'éternité. Et la sagesse créatrice d'éternité, c'est l'Immaculée Conception dans son accomplissement éternel. Et je comprends pourquoi Marie est épouse. Dans le paraclet. Donc je comprends mieux. Mais je le comprends. Quand je dis je le comprends, je dis je le. C'est pas je le comprends intellectuellement. C'est ça, l'épouse. C'est Dieu qui te le montre. Tu as une vision intellectuelle, surnaturelle. Ça peut se faire sur un support akathiste, hein. Peut-être que Jean-Marc va nous dire qu'il a découvert. C'est totalement nouveau ce matin. Aujourd'hui, je veux dire. Aujourd'hui. Totalement nouveau.
Il faudrait un quart d'heure et de dire ce que vous avez ressenti.
Ah, d'accord.
Oui. Là, c'est un. Ça fait ça. Ça fait un truc d'amour. Et c'est très beau.
L'histoire du tachyon, ça te dit quelque chose ou bien ça te dit rien?
C'est
l'histoire du tachyon. La découverte de l'existence des tachyons depuis 5 jours.
Oui.
Ça t'apporte rien. Pour toi, c'est, non, c'est, tu le savais déjà.
Ben, je l'ai entendu à la radio.
Oui.
Mais je pense qu'avec le raison et tout, ça nous soigne les cellules, ça nous. Quand on dit oui au mouvement éternel d'amour issu dans la petite goutte de sang, on sent vraiment, voilà, ça fait ça de plus en plus. Ça fait comme un cercle, comme ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est très joli. Et ça rentre vraiment tout au fond, là, comme ça. Donc ça, c'est l'aspiration. C'est ça?
Nous l'espérons, cher frère.
Donc ça, c'est une petite demeure, ça. Qu'est-ce que c'est comme demeure, ça?
La demeure originelle.
Hein?
La demeure originelle n'est pas une demeure. La demeure originelle, c'est une porte.
Ouais.
C'est une source. Une source n'est pas une demeure. Une demeure, c'est quand Dieu peut transformer pour l'éternité un corps qu'il a créé dans une âme.
Et donc ça fait ça, ça, comme ça. Et à certains moments, ça sort par les yeux. Et ça donne un souffle énorme, énorme, mais d'une puissance formidable. Par les yeux, comme ça. Donc qu'est-ce que c'est, ça?
Est-ce que tu perçois, non pas humainement, que cette force pénètre toute la nature humaine, de
oui.
tous les hommes,
oui, oui.
de tous les temps.
Ah oui.
Voilà. Ça, c'est.
Non, mais moi j'ai même déjà eu des prières et tout, qui montaient, je voyais monter. Et il y avait tout en haut, je voyais des saints, enfin, je voyais ils étaient tout ancêtres comme ça. Et ces prières, c'est toujours ce truc énorme hein, qui se souffle, avec les prières montaient, elles arrivaient chez eux, ça faisait le tour comme ça, et ça repartait après. Je voyais le
d'accord,
qui
mais est-ce que tu le voyais sous forme de lumière ou de forme ou de...
Oui, la prière, je voyais mes prières qui montent. Est-ce que je vois toujours mes prières?
Tu les voyais monter sous quelle forme? Sous forme de lumière, de vapeur, de gloire, de personnage?
Oui,
de...
c'était très beau. Je ne peux pas définir. Bon.
Donc la question, c'est de savoir, c'est la même chose que pour Carmen, à savoir, c'était par la médiation de sensibles externes. Sensibles. C'est des sensibles externes, puisque je voyais, d'ailleurs tu dis toi-même, je le voyais.
Oui, puisque je vois au-dessus.
Et tu vois que ça, tu vois un mouvement qui monte comme ça.
Oui, oui, je vois.
Donc un mouvement, c'est quelque chose qui relève.
C'est ça repris par les gens qui étaient au-dessus.
Ça relève des sensibles externes, puisqu'il y a un mouvement.
Comment?
Tu vois bien que ça relève des sensibles externes, puisqu'il y a un mouvement. Tu perçois, tu vois un mouvement. Donc c'est la troisième demeure au mieux. Hein? Au mieux, c'est déjà beaucoup, hein? Bravo. C'est mieux que quand tu étais dans la première demeure. Tu as fait des progrès considérables, c'est beau. Alléluia, gloire à Dieu. Vivement, non mais c'est sûr. Dès qu'il y a des mouvements, c'est qu'il y a des sensibles externes. Hein? Mais lorsque...
Non, mais quand on prie, il y a tout automatiquement un mouvement quand on prie.
Non, pas automatiquement. Dans la cinquième demeure, il n'y a plus aucun mouvement. Plus aucun.
À la cinquième demeure, on ne voit pas les prières
aucun
qui vont.
Aucun mouvement. Aucun. Pas un seul.
Ah bon, que c'est déjà rentré dans les cellules, c'est déjà rentré.
Tu n'en perçois plus un seul. C'est pour ça. Tant que tu as encore ces mouvements, un mouvement. Regarde, je prends ça. C'est là. Elle bouge. Tu vois, là, elle va mettre.
Oui,
bouge,
c'est oui.
Tu la vois. Il y a bien un mouvement.
Alors, donc, si je vois les anges, c'est normal aussi, ça rentre.
Si tu vois
c'est un mouvement.
Mouvement, c'est que ça relève des sensibles externes.
Si je les vois, c'est pas de ma faute. Enfin,
c'est pas un péché. D'où est-ce que c'est que l'amour surnaturel, divin de la troisième demeure est un péché? C'est une œuvre de sainteté, c'est Dieu qui travaille. Mais le Seigneur nous attend toujours
au-delà,
plus haut.
À l'au-delà.
Toujours plus haut. Au-delà du voile. Du mouvement.
Ah, oui.
Au-delà du voile du mouvement. Au-delà, toujours non. Au-delà du voile de ma foi charismatique, de ma foi, liée encore au mouvement des ondes.
Hein? Et quand c'est la nuit, quand c'est complètement noir, et tout d'un coup, moi je vois avec mes yeux l'horizon et mes yeux fermés, c'est toujours pareil. Enfin, j'ai pas de différence. Donc, la nuit devient, quand il y a des combats et tout, toute blanche, enfin, c'est extraordinaire. Et je vois le ciel avec les. Enfin, je vois le ciel. J'ai encore un bouton.
Bien sûr. Bien sûr que c'est un mouvement. Moi, un jour, j'ai vu un songe comme ça, il y a bien les années 60 ou 70, je sais plus. J'ai vu ça, c'est ce que tu dis. C'était impressionnant, un spectacle incroyable.
Ah oui, c'est vrai.
Un spectacle inouï. Inouï.
Mais ça, je l'ai tout le temps.
Vous voyez, ce dragon, ces sangs, tout ça, c'est le dragon rouge, tout ça, je l'ai vu.
C'est aussi un mouvement.
Bien sûr, c'est un mouvement. Ça, c'était deuxième demeure, pas plus. Un songe, ça n'a rien de sanctifiant, c'est purement charismatique, quoi. Donc, ça n'a rien de la grâce sanctifiante, rien. Mais ça vient de Dieu, quand même. C'est la vérité, tu vois, quelque chose qui suggère quelque chose qui est vrai. Du travail. Qu'est-ce que vous dites?
Au moment de l'Eucharistie, j'ai assimilé aux lactions.
Ah oui.
Et j'ai eu quand même une petite contemplation. C'était un mouvement.
On vous appelle, Frédéric.
Donc c'est des échanges qui se font à travers mon corps, ça repart.
Ah, ça t'a pu percevoir quelque chose comme ça.
Après, le cas. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Pas
Non, c'est pas besoin que ça dure longtemps.
Et j'ai eu aussi une fois, j'étais dans le tombeau du Christ, avec une oraison. Là, c'était pas un mouvement. C'était vraiment.
Un transport.
Non, c'était pas un mouvement.
C'était un transport.
J'étais dans le tombeau du
Christ. T'as été transporté dans le tombeau du Christ.
Et bien, un foie de canard et tout, il faisait chaud. Et quand j'ai repris mes esprits, j'avais froid partout. Un froid comme dans un tombeau. Voilà. Et j'ai vraiment vu le tombeau du Christ. Alors, ça, c'est quoi?
Ça, c'est un transport. Donc, c'est un mouvement.
Voilà, pour rien.
Mais c'est pas parce que c'est un mouvement que c'est mauvais. C'est un beau mouvement. C'est un cadeau de Dieu. De transporter dans le tombeau du Christ. C'est un cadeau, mais ça ne te sanctifie pas. C'est un mouvement, donc ça ne dépasse pas la deuxième demeure. Tu commences à te sanctifier. Dieu commence à te diviniser, à te sanctifier, à te surnaturaliser. Seulement après la quatrième demeure. Mais avant, il te donne des cadeaux, il te donne des sucettes pour t'encourager à avancer. Il te donne des chaleurs, il te donne des froids, mais des froids surnaturels, il te donne des odeurs surnaturelles, il te donne plein de sucettes. Hein? Ça alors.
Donne un petit chat qui son chat de hier, j'étais avec la chambre de là. Je priais dans la chambre de Marianne et tout. Il me gueulait dessus. Il était furieux que je m'étais mis en oraison et. Non, mais c'est vrai.
Non, ça n'a rien à voir. C'est hors sujet là. Tu passes de la deuxième demeure à complètement hors sujet, donc en dessous de la première, même pas la première. Alors.
Et Frédéric, alors ?
Vous aviez tout compris déjà avant.
Oui, parce que nous avons fait quelques temps.
Ah ouais, donc.
Et par contre, aujourd'hui, j'ai fait une courte oraison, 15 minutes à peu près. Mais j'accorde toujours l'émotion, j'ai des larmes. Puis ça a duré longtemps, et je suis arrivée encore ici, et j'arrive. Je ne comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire.
Les larmes, quand dans l'oraison, il y a des larmes qui coulent, mais vous ne savez pas pourquoi.
La grâce. Hein?
C'est parce que Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est un des sept dons de l'Esprit Saint dans un de ces sept dons. Pénètre dans votre cœur en prière, votre soif d'amour, et qu'il vient vous arracher, si je puis dire, à quelque chose à quoi vous teniez beaucoup, pour ça qu'elle est là. Et puis, en même temps, il dit, c'est moi qui remplacerai. C'est pour ça que c'est en même temps de l'âme, c'est en même temps de l'amour, de la consolation. Bienheureux les affligés, ils seront consolés. Et ça, cela montre qu'il y a une purification que Saint-Esprit vient de faire opérer dans votre raison. Il vous a arraché, gratuitement, à quelque chose à quoi vous teniez énormément sur la terre, et il vous a détaché de ça, pour, il a dit, c'est moi qui remplace ce prêt. Et du coup, votre âme pleure, parce que votre esprit était livré, mais votre âme pleure, parce que vous étiez très attaché. Mais vous ne savez pas pourquoi, non. Vous ne savez pas, non, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Donc. On appelle ça, c'est une, donc il y a une mission invisible du Saint-Esprit dans votre âme, et opérer cela. Et vous avez ça, le signe, c'est ce que vous avez, que ce que vous décrivez. C'est comme ça qu'on reconnaît dans la mission invisible du Saint-Esprit, dans lequel des dons il a été envoyé. Mais voyez bien que dans les sept dons du Saint-Esprit, vous recueillez ici une mission invisible d'une des personnes de la Très Sainte Trinité pour augmenter la grâce sanctifiante. Ce qui montre que vous passez, ici vous êtes à la frontière de la troisième à la quatrième demeure. Parce qu'il y a en même temps un sensible externe, mais en même temps, l'assurance qu'il y a une mission invisible du Saint-Esprit en vous. Donc vous êtes vraiment à la frontière de la troisième et quatrième. Donc il faut aller basculer dans la quatrième pour se précipiter un jour dans la disposition à être emporté dans la cinquième. Puisque c'est la cinquième que Dieu nous attend.
Mais ce qui m'arrive parfois, mais ça c'est pas pendant l'oraison, c'est quand je vais prendre le corps du Christ, pareil.
Ouais, il en faut des purifications des choses que l'on tient sur la terre. Hein. On tient à beaucoup de choses sur la terre. On tient à sa réputation, on tient au désir d'être aimé, au désir d'être reconnu, au désir d'être entendu, au désir d'être fécond, au désir de réussir, au désir.
Ça peut être des larmes de joie, non? Ça doit exister, ça. Du moment où
je n'ai pas touché. Non, pas ce qu'elle dit là.
Non, c'est parce que je n'ai pas touché. Je ne sens pas tout ça.
Ah non, mais on ne sent pas. Si vous le sentez. Si vous le sentez. Si vous le sentiez, vous n'auriez pas les larmes. Si vous saviez à quoi vous êtes détaché, vous n'auriez pas le don du Saint-Esprit en question.
Ça, ça me fait de plus.
D'accord? Ben, je crois que tout le monde on va pouvoir continuer. Enfin, ça vous va? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous on peut essayer de continuer si vous voulez, d'ici on a encore une petite heure là, pour avancer. La messe à 18h à peu près. Donc il faudrait quand même que je vous laisse un quart d'heure, 20 minutes d'oraison avant la messe. Hein?
C'est bien.
Ah oui. C'est exercé, bien sûr. Bon, vous voyez, apparemment, tout ce qu'on vient d'entendre, là, montre que nous sommes plutôt dans les deuxième et troisième et quatrième demeures, hein? Plutôt.
Juste une interprétation comme ça, sur tout à l'heure, vous parliez du taquillon, pour savoir si on avait compris. Ou pour savoir si on était interpellé par ça. Et ça m'interpelle parce que c'est purement intellectuel, hein. Mais si j'ai bien compris, d'après ce qui s'est passé il y a 4-5 jours, là, cette révélation donc, de ces
éléments
qui vont plus que la lumière, oui. C'est avant la création, et donc c'est à partir de la cinquième demeure que Dieu se révèle un petit peu de cette manière-là, quoi. Bon.
Le lien entre la découverte des tachyons et la cinquième demeure. Vous n'avez peut-être pas saisi le lien.
Non.
Hein, ça, vous êtes dit, d'accord, je comprends les tachyons.
Oui.
Je comprends la cinquième demeure, mais je ne vois pas le lien que vous faites entre les deux. C'est ça?
Oui, c'est
C'est ça ta question?
Non, non. C'était ça simplement pour dire. Moi, ce que je comprends, c'est que, d'après ce que vous avez dit, quoi, c'est l'électron, enfin, en particulier
la matière
que la lumière, ça remet en cause toute la théorie d'Einstein.
Oui, ça, c'est d'accord, oui. Hein,
ça dépasse l'entendement de l'homme
scientifique.
Dieu, hein, et donc. Le fait que ça aille plus vite que la lumière, ça rejoint la création, avant la création du monde, la manière dont. Donc, dans la cinquième demeure, c'est Dieu se révèle sans mouvement, quoi.
Non, non, dans le Bereshit, on n'est pas dans la cinquième demeure, dans le Bereshit. Ça prouve simplement que ce que dit la Bible, à savoir que Dieu, avant de créer le monde, s'associe à la matière primordiale, la terre. Hein. Ben ça prouve que c'est vrai. Puisque cette matière primordiale, on sait qu'elle existe. Voilà. Donc c'est une confirmation de la révélation biblique. Mais ça n'a pas grand-chose à voir directement dans la cinquième demeure. La cinquième demeure, c'est quand je suis entièrement englouti dans ce Bereshit, corporellement avec mon corps spirituel, et que de là, je suis directement en contact, je vais, par la foi, cette fois-ci, par la foi, par la plénitude reçue de la grâce de la vie divine, je suis directement catapulté dans l'instant de l'union hypostatique de Jésus sur la croix, qui, elle, est glorifiée éternellement dans l'au-delà de la résurrection, et que je conjoins les deux ensemble dans l'Immaculée Conception, dans la grâce de l'épousée, et du coup, je rentre en responsabilité avec le Père. Et ça y est, tac, ça y est, je peux à ce moment-là, si j'ai fait ces trois grands dépassements surnaturels, hein, créés et incréés, si je peux dire, à la limite de créer de l'incré. Ah, oui, je peux être, c'est ça que je désire, c'est ça que je sois. Dieu peut me prendre dans la cinquième demeure, là, hein, puisque c'est le Père. Il y a plusieurs sources à la cinquième demeure. Et ce sont les sources conjointes qui, dans ma soif, mon désir et ma disponibilité, permettent à Dieu le Père de me prendre. Je renonce à tout.
Il m'est venu une idée comme ça, c'est pas moi, hein, mais ça m'est venu comme ça, j'ai entendu, c'est les molécules de l'amour. Pour moi, ça représentait l'amour. Si ça va plus vite que la lumière, c'est quelque chose qui n'a pas de.
Sauf que ce n'est pas des molécules. Dans une molécule, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de particules.
C'est le mouvement de l'amour.
Dans une molécule, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de milliards de milliards de milliards de particules. D'accord. Alors, tandis que là, non, c'est pas de particules. Ce qui montre bien que quand. Dieu a créé, il s'est associé à cette. Ce qui est de plus minuscule. Et c'est ce qui est de plus minuscule qui est origine de tout ce qui existe dans cette union. Et quand les anges ont vu ça, comment ça, il ne s'unit pas à nous qui avons une vastitude spirituelle de lumière parfaite, sans limite? Dieu choisit pour l'amour de s'unir à quelque chose qui est sans amour, qui est sans lumière, qui est sans âme, qui est sans intériorité, qui est... Il aurait mieux valu que Dieu s'unisse à la vastitude sans limite de la lumière et que, du coup, l'union hypostatique de Dieu qui sauve le monde et le remplit d'amour et de lumière, ce soit une union entre Dieu et l'ange, plutôt qu'entre Dieu et le corps spirituel. Parce que quand Dieu crée une particule de matière qui est primordiale, elle est forcément spirituelle. Donc l'ange comprend ça, que Dieu choisit d'être le plus petit de tout. Alors je suis le plus grand, la plus splendide de toutes les créatures. C'est à l'égal de Dieu du point de vue de la lumière. Comme moi l'ange, vous rendez compte? Si Dieu se trompe là, Dieu serait plus rapide. Si l'union hypostatique se faisait au niveau spirituel, puis après, voilà, on irait ensemble se conjoindre à cette petite particule, et donc la création se ferait comme ça, et il n'y aurait plus de problème. Nous coopérerions tous à la splendeur de Dieu. Et mais ça se ferait sans l'humilité. Ça se ferait sans l'humilité, sans la petitesse, sans la pauvreté, sans le dépouillement, sans l'effacement. Sans l'effacement, sans la disparition. Et l'amour implique la disparition totale de soi. Donc, dans les personnes de la Très Sainte Trinité, l'épouse, avant la création du monde déjà, hein, s'efface totalement. Hein, s'efface totalement, il n'y a plus rien de l'épouse. Hein. Et c'est à cause de cette profondeur d'effacement que, du coup, le principe lui-même s'efface et réalise dans l'au-delà de l'unité de ces deux effacements l'émanation de l'amour qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc c'est essentiel, l'effacement, à l'existence de Dieu. Puisqu'il est trois et un et trois. Mais l'ange, lui, il n'est créé qu'en perfection, qu'en splendeur et en lumière, pas en amour, ça dépendra de sa liberté, s'il rentre dans la petitesse. Ben ça, c'est la doctrine sur l'ange. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a des... Est-ce que c'est vrai qu'il y a des éléments de matière et des éléments importants, hein, pas juste un sur... Non, des éléments très importants, un poids considérable de matière va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est ça. Cette découverte-là est prodigieuse. Nous, on le sait. Vous lirez, si vous voulez, les notes techniques du monde nouveau mises en place du corps spirituel, c'est marqué déjà le tachyon. En plus vite qu'avec des lumières, c'est évident pour que n'importe quel spirituel, n'est-ce pas? Bon, mais donc on le sait. Mais d'en avoir la découverte absolument certaine sur le plan scientifique, ça bouleverse l'athéisme scientifique. Ça le renverse. Ça le renverse parce que normalement, s'il n'y a pas de Dieu, il y a un Big Bang, il y a quelque chose, puis il y a une expansion, et une lumière, une chaleur, une lumière, et puis après cette lumière diminue, ça fait de la matière, et particules de matière, etc. Ça vient après la lumière. Et la lumière elle-même vient d'une extension. Donc il n'y a pas de matière au départ. Mais si avant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'origine, à la philosophie de la nature dans le principe de la phusis, si vous voulez. Quand on regarde la nature, elle a son propre principe d'existence dans la loi de la phusis, dans la loi naturelle du monde physique. Donc là, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la phusis, qui existe avant la phusis, jusque dans la matière. Donc là. Attends. Bien sûr, l'Antichrist pourra utiliser cela pour. Et il va le faire, ne vous inquiétez pas. Il ne va pas s'en priver pour expliquer comment utiliser l'existence de Tachyon pour rentrer dans le monde de l'univers double, de ce qui est avant la création du monde. Vous avez traduit Lucifer. Parce que la chute de Lucifer, si je puis dire, est avant l'existence du temps. Comment donc utiliser l'existence de station pour rentrer dans la lumière? Mais une lumière sans la croix, sans les sacrements, sans l'union hypostatique déchirée de Jésus, sans la transverbération, sans la personne du Verbe épouse. Alors il y aura l'amour messianique, il y aura l'amour de Christ en l'église luciférienne. Ce sera vraiment l'église de Christ, et le Christ en église, mais sans. Ah, et on va utiliser les tachyons. N'ayez aucune espèce de crainte là-dessus. Mais nous savons que, du coup, il y a quelque chose qui existe avant notre univers. Remarquez, on savait par la foi déjà. Hein. Mais c'est déjà plus facile de savoir qu'on est entièrement traversé, donc on sait qu'on peut, avec cet acquion, par un choix que nous faisons, prendre autorité sur l'univers, le laisser de côté et aller dans son principe. Et dans son principe, de son principe, nous sommes rentrés dans l'union hypostatique du Créateur. L'union hypostatique du Christ a commencé avant la création. C'est ce que dit Moïse. Dans le Bereshit, il y a le Messie. Et le Messie, c'est l'émanation de l'union du Verbe de Dieu avec la matière primordiale. Donc, je rentre dans l'existence hypostatique, personnelle, messianique, originelle, créatrice de tout ce qui existe. Et avec cela, dans la foi de Marie, je peux rentrer dans le sein du Père pour pénétrer dans le regard que le Verbe de Dieu réalise pour pénétrer le temps tout entier dans la croix. S'il pénètre dans le temps tout entier pour l'incarnation, c'est uniquement pour atteindre l'instant éternel de la croix. L'union hypostatique déchirée. Donc de là, je me laisse passer de cette origine primordiale de la création dans l'union hypostatique du Verbe créateur de toutes choses à travers la matière primordiale à cet instant éternel de l'union hypostatique déchirée de Jésus sans passer par les intermédiaires, et je fais ce que la foi de Marie a fait. Elle a dit oui, fiat. Fiat. Elle dit oui à la volonté éternelle du Père. Elle n'a pas dit oui à l'incarnation pour qu'il y ait le petit Jésus. Jésus avec le tir des roses, c'est pas ça qu'elle a dit oui. Elle a dit oui. L'union hypostatique déchirait de Jésus. La sagesse créatrice, c'est déjà l'union hypostatique déchirée. Elle dit oui, et elle va coopérer, elle va aller faire ce lien entre ce qu'il y a de plus pur dans la sagesse primordiale créatrice, qu'elle est de manière telle que finalement elle est presque assimilée, elle est quasiment assimilée à la sagesse créatrice, puisqu'elle y est identifiée dans l'union hypostatique déchirée de Jésus sur la croix. C'est à cause de ça, d'ailleurs, que Dieu crée le monde nouveau de la grâce, en plénitude, lorsque il crée Marie. À partir de rien. Et ça, c'est très très important pour notre foi, parce que si on ne fait pas cet aller et retour de l'alpha et de l'oméga, dans l'Apocalypse c'est marqué, on ne peut pas rentrer dans le cinquième sceau de l'Apocalypse, c'est la cinquième coupe. Et du coup, on est dans Babylone, alors on se mord la langue. Regardez les valeurs, les mouvements qui sont décrits dans l'Apocalypse. C'est ceux qui ne vivent pas de la plénitude de l'Église, dans son accomplissement final et dans sa petitesse originelle et dans le dépassement de l'unité des deux. Alors il se mord la langue de douleur. C'est beau ça, hein? C'est beau ça. Savoir que à partir du cinquième sceau de l'Apocalypse, la matière, le corps, la terre va s'ouvrir. La terre va s'ouvrir substantiellement. Et elle ne s'est pas ouverte seulement dans l'union hypostatique de Jésus. Elle va s'ouvrir substantiellement partout dans le corps mystique de l'Église, dans tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant. Et du coup, ils peuvent être emportés dans le cœur immaculé de Marie, dans ses plaies, et dans l'au-delà glorieux où Dieu crée le corps spirituel, qui est l'au-delà de la résurrection. Ce corps spirituel qui du coup peut être engendré non seulement tachyoniquement en nous, mais aussi dans le monde. C'est un engendrement, le corps spirituel. La cellule, le plus petit, composé vivant spirituel, c'est une cellule. Ce corps spirituel, donc, c'est donc une cellule, avec un génome, avec un ADN. Ah, c'est pas des tachyons, ça. Ça, ça nous vient de la Sainte Famille Glorieuse. Tout cette oraison dans la sixième demeure, c'est-à-dire l'au-delà de la cinquième, forcément, Jésus, Marie, Joseph engendrent leur fécondité corporelle dans le monde vivant de leurs cellules glorifiées vivantes, engendrent dans vous les déterminations des cellules qui sont en train de se multiplier puisque vous êtes sur la terre. Les cellules ne cessent de se multiplier, vous êtes sur la terre. Une demi-heure, il y a plus d'un million de cellules qui sont nouvelles. Si vous êtes en transfiguration de l'union transformante, de sixième et septième demeure mariage spirituel, même déjà cinquième demeure, c'est sûr que les déterminations lumineuses, surnaturelles, qui sont au-delà de l'unité de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle dans votre corps, parce que vous êtes happé donc, dans l'au-delà de l'union apostatique déchirée et glorifiée de Jésus, jusque dans cette unité vivante et lumineuse, engendre en vous ces déterminations déterminent le patrimoine génétique de vos nouvelles cellules ainsi renouvelées en vous. Donc vous avez des cellules staminales, sponsales, glorieuses. C'est pour ça que le corps des saints ne doit pas se corrompre après la mort. Ça, c'est incorruptible. C'est le fameux secret de Lourdes. Donc, le corps de Bernadette ne s'est jamais corrompu. Il est resté toujours vivant. 30 ans après, quand elle est sortie, le sang était encore vivant. Elle est en dormition, c'est tout. Parce que les corps des saints orthodoxes, quand on prend les saints des corps des saints orthodoxes, ordinairement ne se corrompent pas non plus. Mais ils s'assèchent. Parce que chez les catholiques, ils restent vivants, le sang continue à circuler. C'est la dormition, c'est la différence entre la dormition et l'assomption.
Justement, je voulais savoir par rapport à aux demeures, justement, quand je pense à Moïse, qui avait quand même un pouvoir, un grand pouvoir, d'abord il avait le pouvoir de dialoguer directement avec Dieu, il avait le pouvoir d'ouvrir la mer rouge et tout. Donc je me demandais, est-ce que lui, il vivait constamment au niveau de la demeure, de la sixième demeure? Est-ce que c'est donné? Est-ce que ça peut être donné? Pas à moi, mais il y a des prophètes, des... C'est vrai qu'ils vivent constamment dans ce niveau-là, même quand ils ne sont pas en Moïse, en fait. Ils sont tout le temps comme ça. Je veux savoir.
Ben Moïse, il a attendu quand même, semble-t-il, un certain temps avant de commencer à rentrer dans l'union transformante messianique.
Mais au moment où il...
Deuxièmement, il est... Hein?
Au moment où il y était, au dernier temps, quand il a sauvé Israël...
C'était des mouvements.
C'était des mouvements.
Ben oui. Tu prends un bâton, tu frappes... C'était un pouvoir sur les éléments.
Mais donc,
ça met en lumière quand même. C'est un pouvoir charismatique. C'est un pouvoir charismatique prodigieux. Charismatique. Et la preuve qu'il n'était pas dans l'union du mariage spirituel sans la septième demeure, c'est quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, dans l'Hadès. Avec tous les autres, avec le bon et le mauvais larron, aller au ciel. Par contre, il y en avait un qui n'est pas allé dans le séjour des morts. Hein? C'est Élie le prophète. Pourquoi? Parce qu'il faisait oraison. Et il a été à la septième demeure, donc il a été emporté au ciel. Pas au ciel de la vision béatifique, au ciel primordial.
Le seul.
Oui, mais il va revenir, vous inquiétez pas.
Et c'est le seul de l'Ancien Testament.
Non, mais Enoch. C'est Enoch.
Enoch.
Enoch. Et donc il va revenir, vous inquiétez pas, on va lui serrer la pince. Hein. Ah, c'est le truc qui me plaît de savoir qu'on est en l'an 2012 hein, et que donc je serai probablement parmi ceux qui vont serrer la pince au prophète Élie. Parce qu'il ne va pas venir en 2057, hein, ça n'y croyez pas. Hein. Non.
Ça nous donne espoir que nous aussi on pourra lui serrer la fesse. Si vous êtes plus vieux que nous.
Si vous ne me quittez pas. Oui.
Père, je ne vous quitterai jamais. Maintenant que je vous connais, on ne vous laissera pas, on ne vous aura pas.
Voilà. Et je peux être témoin parce que je l'ai vu.
Ah oui. Et il nous
lui dit avec le père.
Et il ne nous quittait pas, hein, il ne nous quittait pas. Non, mais c'est sûr que c'est. Non mais là, ce sera physiquement. Il n'est pas mort. Il a toujours son âme, son corps. Hein, et sa chair n'a jamais connu la mort. Donc il doit, nul ne pénètre au ciel sans passer par la mort. Donc il reviendra, il sera persécuté, martyrisé et tué par l'Antéchrist. Et ce sera même à Jérusalem, en Palestine, là-bas. Mais le troisième jour, devant toutes les télévisions, il ressuscitera, il montera au ciel. Et ce sera le cinquième, à monter au ciel avec son corps. Hein?
Jésus-Marie-Joseph?
Oui.
Jean.
C'est pas un dogme, hein? Je suis Marie, ça c'est dogmatique. Je suis Marie.
Oui, ça c'est dogmatique.
La transfiguration, Jésus parle avec Moïse et. Donc Moïse, il n'est pas resté sur terre. Il est à quelle demeure?
Je vois que vous êtes très très préoccupé par le destin de Moïse. Bon, le destin de Moïse, c'est que le Midrash rabbinique sur la mort de Moïse est admirable. Donc il se fait promettre de ne pas être dans les demeures de l'Hadès. Hein. Et son corps, il dit, moi je ne veux pas donner mon corps au prince de la mort. Alors il lui est concédé que son âme ira aux enfers, comme Adam, Ève, Abraham, dans les lieux de la mort. Mais son corps, non. Donc son corps a été mis en réserve, hein, dans un lieu, dans le ciel empyré. Voilà. C'est pour ça que il est. C'est pour ça que au moment de la transfiguration, puisque la transfiguration c'est comme une espèce de manifestation de Jésus, hein, de l'union corps rédemptrice, c'est sponsal. Hein, tu ne peux pas avoir de transfiguration du corps humain s'il n'y a pas d'unité sponsale. C'est la transfiguration est une propriété qui appartient de droit à l'au-delà de l'unité sponsale surnaturelle. Donc quand l'Immaculée Conception et le Christ vont au-delà de leur communion des dieux, tu vois, et qu'ils anticipent déjà l'Assomption, c'est là que ça se manifeste dans la transfiguration. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose de la cinquième demeure, on est d'accord. C'est évident. Et à ce moment-là, donc toute la nature humaine est présente dans cette lumière. Et du coup, il est possible au corps de Moïse de se manifester et de témoigner. Donc on ne peut pas dire, et lui le prophète, n'en parlons pas bien sûr, puisque lui il n'a pas connu la mort. Mais bon, ça, c'est pas un dogme non plus. C'est la pensée des juifs. C'est la pensée de la synagogue. La pensée de la synagogue, c'est que, bon, voilà, Moïse a eu dans sa mort une destination qui est unique parmi tous les autres hommes.
Est-ce qu'il a douté un peu?
Non, il n'a pas douté. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il n'a pas eu accès
à la terre promise.
Il n'a pas été donné de rentrer, parce que celui qui montre le péché n'a pas accès à la terre promise de la résurrection dans l'union apostatique de Jésus. Voilà, donc c'est pour ça, c'est surtout ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Mais celui qui montre le Père, oui. Donc si avec ton corps spirituel tu vois le Père, à ce moment-là tu as accès au corps spirituel. Mais ce n'était pas le cas de Moïse, il ne montre pas le Père, il montre le péché, il montre où est la rédemption. Mais ça c'était. Donc, c'est la foi d'Israël qui indique ça, que la destinée du corps de Moïse est une destinée unique dans l'histoire du monde. Voilà, parce que. D'ailleurs, le tombeau de Moïse n'existe pas. Vous trouverez le tombeau d'Abraham en Palestine, vous trouverez. Le tombeau d'Isaac, le tombeau de Jacob, le tombeau. Vous trouvez le tombeau de Daniel à Babylone, en Iran, quoi, actuellement. Quelqu'un de mes amis qui a été voir le tombeau de Daniel il y a 2 ans et demi en Iran. Splendide, extraordinaire, enfin, moi, des photos. Et il y a une espèce de je ne sais plus comment, de roi, là, au 14e siècle, après Jésus-Christ, qui est allé là. Il a dit, moi, le prophète Daniel, moi, c'est le plus grand des prophètes, moi, je veux la moitié de ce corps. Donc, il a pris la partie droite du corps, le bras droit, là, avec une partie comme ça, là. Voilà. Il a dit, je veux un deuxième tombeau. Et donc, il l'a amené chez lui en Ouzbékistan. Donc, il y a 2 tombeaux de Daniel. Et là, en Ouzbékistan, ils ont amené... Et donc, Jean-Baptiste était là-bas avec 5 de ses amis qui se firent à leur retour il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Ils ont été là-bas voir le tombeau de Daniel. Le Père Patrick nous dit toujours que le bras de Daniel qui a désigné le temps, l'année exacte de la naissance de Jésus et l'année exacte du Chikutsi Meshomem. Nous, on va y aller. Donc, ils ont été pour voir le bras qui montrait la mesure des temps. Le plus grand des prophètes. Alors, figurez-vous... Un truc fou. Vous saviez peut-être ce qu'il est devenu, à part Josiane, parce que je l'ai dit à Josiane, mais le tombeau, donc, qui se trouve là. Et depuis qu'il est là, cette partie du corps de Daniel, la partie droite, là, avec le bras, ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, ils sont obligés, du coup, de grandir le cercueil, de pousser les murs. Actuellement, il fait combien ? 18 mètres, c'est ça ? Donc, tu regardes, il augmente d'un pouce par an. Un pouce, c'est beaucoup, c'est 1 centimètre. Ça veut dire qu'au bout de 100 ans, ça fait 12 mètres, quoi. Bah, je sais plus, je fais un calcul peut-être idiot. Non, ça fait 1 mètre 20. Bon, voilà. Bon, enfin, il fait 18 mètres. De toute façon, il fait 18 mètres. En ce moment, il aurait fallu qu'il fasse une mesure arithmétique pour savoir si par hasard, il n'y a pas une espèce de loi numérique de l'augmentation du bras de Daniel pour voir que cette augmentation numérique montre qu'on serait par exemple en asymptote ou alors et donc qu'on est en but sur la fin des temps à un moment donné, grâce à ces mesures. Personne n'a pensé à faire ça. Qu'est-ce que l'humanité est bête ? On pourrait savoir la fin des temps des nations. On n'est pas loin parce que, on n'est pas très loin, évidemment. Enfin, tout ça pour vous dire que le prophète qui a désigné Chikusi Meshomem, c'est le seul prophète qui, dans le corps spirituel, augmente après sa mort, si je puis dire. Vous saviez ça? Oh, mais je vous l'ai dit, le prophète Daniel, je vous ai dit que le prophète Daniel, c'est... Très important, prophète Daniel, c'est très important, prophète Daniel. C'est le seul prophète dont on parle dans l'Apocalypse de Saint Jean, le seul. Et c'est Jésus, quand on lui demande, mais la fin, il faut nous préparer la fin. Jésus, il ne dit rien. La seule chose qu'il dit 2 fois dans l'Évangile de Saint Luc et de Saint Matthieu, hein, il dit, c'est Daniel. Et puis il faut comprendre le lieu qu'il dessine quand il y aura la dévastation. Jésus il désigne ça, il dit là le jour où on touche le temple de la présence paternelle de mon père, là c'est fini. Là ça c'est. Alors à ce moment-là, oui, faudra être emporté au-delà. On ne pourra plus végéter dans la première, deuxième, troisième demeure en disant gna gna gna, je crois des trucs extraordinaires. Shambhala, 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 Shambhala. Je tombe dans le repos et j'aboie. Dans la troisième vague. Non, il faut aller au-delà. Là, cette fois-ci, il y a une exigence absolue d'aller au-delà. Maintenant, c'est Dieu qui compte. C'est Dieu seul, c'est tout. Voilà, ça, c'est le prophète Daniel. Voilà, on va dire, si vous voulez bien, un chant, là, avec Jean-François. Jean-François, et après, on aura une demi-heure, du coup, quelque chose comme ça, avant 6 heures, non?
Ouais.
Voilà, comme ça, on a une demi-heure d'oraison, comme ça, c'est bien. Non, le thé, on verra ça après. Oui.